Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, Antiquissimo est toujours aux assises de la traduction. En ce début novembre, à Arles, au Musée Bleu. Et je me trouve en face d'Anne-Marie Ozanam, que je salue.
Bonjour.
Alors, avant de présenter Anne-Marie, que j'ai eu vraiment grand plaisir à écouter vendredi 1er novembre lors d'une table ronde à la chapelle du Méjean, auparavant, je vais lui demander, puisqu'elle était présente à l'atelier de traduction dont nous avons parlé dans l'émission précédente, j'aimerais avoir ses réactions sur ces deux heures que nous avons partagées.
Alors j'ai été vraiment passionnée parce que l'animateur, qui est à la fois extrêmement cultivé, il l'a montré, il connaît vraiment son grec sur le bout des doigts, avait aussi une simplicité dans la manière de se présenter et une manière de communiquer sa joie du texte, puisqu'on a travaillé sur un texte très difficile, Sophocle, et qui nous a montré toutes les traductions qu'on pouvait donner, qu'il a écouté tout le monde, tout en ayant tout à fait beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment passé un moment vraiment délicieux.
Alors moi aussi, c'est vrai que c'était vraiment un moment où on jubilait à partir des mots, de voir comment on pouvait les traduire pour qu'ils deviennent vivants. Ce qu'ils sont toujours dans le texte, mais vivant au point d'en faire une scène de théâtre.
Tout à fait. Et en plus, à un moment où le texte est tellement difficile qu'on peut multiplier les traductions sans jamais arriver à l'épuiser complètement. Et là, il l'a très très bien montré, tout en prenant le risque à la fin de nous donner sa propre traduction, donc le choix qu'il a fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment à la fois courageux, sympathique et très très intelligent.
Et en même temps, on voyait qu'il a fort bien montré que traduire, c'est forcément choisir et renoncer en même temps.
Voilà, il a dit d'une certaine façon que c'était comme une sorte de course dans laquelle on perdait des morceaux du texte, des morceaux de soi-même, et on arrivait en tendant un résultat dont on n'était pas forcément totalement satisfait, mais qu'on avait le devoir de donner.
Alors, vous êtes d'autant plus sensible à tout ce qui vient d'être dit et partagé lors de cet atelier que vous-même, vous êtes, on va revenir sur votre carrière, votre parcours important, mais vous êtes vous-même une traductrice.
Alors oui, mais je suis traductrice lâche, c'est-à-dire je n'ai jamais traduit de la poésie aussi difficile que celle de Sophocle. Moi, j'ai traduit des auteurs de prose. Donc j'ai traduit Plutarque, qui n'est pas si facile que ça à traduire, mais moi, c'est pas du tout la difficulté de la poésie. Et puis un auteur, celui dont on a parlé l'autre jour, qui est Lucien de Samosate, qui nous donne une langue tellement pure qu'elle est, je dis pas facile à traduire, mais que c'est quand même tout à fait autre chose comme danger, si vous voulez.
Alors, revenons à vous, donc Anne-Marie, pour vous présenter. La question un peu bébête que je vais poser, c'est que cet amour pour les textes anciens, pour l'Antiquité, dont vous avez fait votre profession, est-ce qu'il est né à l'école ?
Non, je dirais que c'est plutôt né à la... Enfin, j'ai fait des études littéraires et j'ai fait une hippocagne, une cagne, mais c'est vraiment, je dirais, à partir de la licence qu'on a vraiment découvert les textes. Je parle du latin surtout. Le latin, quand je l'ai connu, je suis très ancienne, on faisait du latin par petits bouts de phrases qui étaient très scolaires, un peu comme des mots croisés, on n'avait pas du tout de contexte. Et je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que les gens sont moins nombreux à l'étudier, mais ils l'étudient beaucoup plus intelligemment que nous.
Alors, avec cet écueil qu'aujourd'hui, parfois, on a tendance à privilégier la civilisation et pas le texte, comme si on pouvait les dissocier, alors que normalement, il faut partir du texte. Donc, c'est un petit peu ce qui est dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, conçoivent ceci comme une porte ouverte vers une civilisation.
Oui, c'est sûr, mais quand même, dans certaines classes, on étudie aussi la langue. Mais on l'étudie, je pense, d'une façon plus souple que nous. Vraiment, on nous piégeait avec des exercices de petite grammaire sans beaucoup d'intérêt. Enfin, j'ai retrouvé des vieux livres que j'avais quand j'étais en terminale et je n'aimerais pas que des jeunes apprennent le latin comme ça.
Et d'ailleurs, souvent, on voit des parents dans les réunions qui nous disent « Ah, si seulement on avait appris le latin comme ça », sous-entendu, effectivement, qu'on dit toujours toujours, on se plaint toujours de ce qui a changé en mal, mais il y a des choses aussi.
Ah, il y a des choses qui ont changé en bien.
Voilà.
Puis les livres sont beaux maintenant, oui. Les livres qu'on donne aux jeunes.
Puis c'est vrai que les textes grecs comme les textes latins, mais c'était surtout vrai pour le latin, en effet, on peut très bien les faire traduire assez facilement aux élèves, même s'ils ne sont pas des experts en langue.
Tout à fait. Et il y a des choix, il y a des auteurs simples, des auteurs faciles. Je pense aux romans grecs, par exemple, qui font très plaisir aux jeunes gens. Mon petit Lucien aussi, parce que c'est des textes et des petits dialogues qui sont très faciles. Et les élèves ne sont pas si stupides qu'on pense. Ils peuvent très bien lire Homère, même s'il y a des passages difficiles. L'entendre, c'est beau, déjà. Et entendre la langue et puis comprendre à peu près comment on y arrive, je crois qu'ils en sont capables.
D'ailleurs, j'aime bien qu'on rebondisse sur ce mot « entendre », parce qu'on oublie qu'un texte, ça se lit avec les yeux, mais ça se lit avec la voix et ça s'entend. Hein. Et effectivement, dans l'Antiquité, on privilégiait beaucoup plus cet aspect oral.
D'ailleurs, on ne lisait pas silencieusement. La lecture silencieuse, c'est quelque chose de plus tardif.
Oui, d'ailleurs, il y a un passage de saint Augustin où il avoue sa stupéfaction de voir que des gens lisent les lèvres fermées, dit-il.
Tout à fait.
Et ça m'amuse et ça m'émeut énormément. Donc oui, il faut dire les textes, il faut les chanter, il faut les entendre. C'est ce que vous faites à merveille. Je continue avec votre parcours. Donc vous avez fait des études classiques. C'était à quel endroit que vous avez
étudié ? C'était à Lyon. J'étais étudiante à Lyon et puis donc j'ai eu l'agrégation de lettres classiques. Pendant quelques années, j'ai été professeure en collège et là, ni latin ni grec, mais en fait, ça m'a appris d'autres choses sur la vie humaine et donc je ne regrette pas. Après, je suis allée à Paris. Voilà.
Alors donc, ensuite, on fait un grand bond et vous êtes professeur en classe préparatoire.
Voilà, donc la classe préparatoire d'un grand lycée, d'un lycée donc, qui est un peu engagé à aider les élèves à vraiment réussir. Donc, on a un parcours de travail qui est exigeant, mais c'est passionnant. Enfin, moi, j'ai passé de nombreuses années, je crois que j'y suis arrivée, si je ne me trompe pas, en 89, donc je suis restée un certain temps.
C'était dans quel lycée alors ?
Alors c'était le lycée Henri IV à Paris, donc qui se trouve tout près de l'école normale supérieure, et où enfin, il y avait vraiment des gens qui ont une vocation d'étudier les langues anciennes, qui le font bon, peut-être pour faire plaisir à leurs parents, mais souvent par choix.
À ce stade-là, non, c'est plus pour faire plaisir aux parents, là, c'est vraiment un engagement.
Oui, il y a un engagement, et il y a vraiment des gens qui sont passionnés.
Alors donc, vous n'enseignez plus maintenant ou...
Alors, je suis à la retraite depuis 2 ans, puisque l'éducation nationale nous considère comme des professeurs de lycée, donc on n'a pas le droit de continuer aussi longtemps que les professeurs de fac, qui vont jusqu'à 70 ans. Moi, j'ai été mise à la porte, vu mon grand âge, il y a 2 ans.
Donc là, ça n'empêche pas que vous continuez à baigner là-dedans et vous continuez de traduire. Donc,
oui.
Vous êtes une traductrice vraiment réputée, connue aux belles lettres, puisque vous avez traduit beaucoup d'auteurs.
Bon, j'ai fait 7 ouvrages dans une collection des belles lettres qui s'appelle Classique en poche. C'est très joli parce que c'est une petite collection, pas très chère, mais bilingue. Donc les élèves, j'ai traduit un petit César, bon. César, c'est facile à traduire. Un Tacite qui m'a bien intéressée parce qu'on parlait de la Germanie et de tout ce que cet ouvrage, qui est une petite conférence, a donné ensuite politiquement au XVIIIe siècle et même malheureusement au XXe siècle. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis après, j'ai basculé, si j'ose dire, dans le grec. J'ai traduit un plus tard, là, c'était pas aux belles lettres, c'est une collection monolingue chez Gallimard, donc les vies parallèles de Plutarque. Et puis je suis revenue aux belles lettres pour faire 5 classiques en poche sur Lucien et l'intégrale de Lucien en monolingue aux belles lettres.
Alors justement, ce Lucien, dont vous avez traduit du Tacite aussi, me semble.
Oui, je viens de vous dire,
d'accord,
avec la Germanie. Oui.
D'accord. Donc là, revenons à cet auteur dont on a beaucoup parlé, puisque le thème de ses assises cette année, c'était le dialogue. Et évidemment, le dialogue des morts rentrait particulièrement dans cette thématique-là. Et la table ronde faisait réfléchir entre philosophie et comédie, ce texte admirable de 30 dialogues que j'aimerais que vous, pour le cas où certains de nos auditeurs ne connaîtrait pas du tout, que vous présentiez rapidement. De quoi parlent ces 30 petits dialogues ?
Alors Lucien a écrit d'autres dialogues. Il a fait parler les dieux, il a fait parler... Donc il s'est amusé avec la scène du dialogue. Il a même fait parler les courtisanes, qu'on appelle les étailles, si on veut bien. Et donc là, il s'amuse à faire parler les morts. Et je dis il s'amuse, parce qu'on pourrait penser que c'est sinistre, et ce n'est pas du tout sinistre. Donc le principe, c'est un dialogue parfois entre 2 personnages, parfois entre 3, voire un peu plus, personnages. Ça dure, les plus courts des dialogues font, dans une édition française, à peu près 2 pages. on peut aller jusqu'à 7-8 pages, pas bien plus. Et donc les personnages qui sont mis en scène sont morts. Alors il peut y avoir des divinités des morts, c'est-à-dire qu'on peut avoir le batelier, pas tout à fait une divinité, mais Charon, celui qui transporte les morts de la rive des vivants à la rive des morts. On peut trouver Hermès, qui les dirige, on l'appelle le psychopompe, celui oui. qui emmène les morts vers là-bas. Et puis on voit arriver soit des personnages qui ont été très célèbres, on voit Alexandre, on en voit d'autres, et puis qui deviennent tout à fait misérables dans le monde des morts. Soit on a un philosophe très intéressant, un cynique, qui n'a pas peur de la mort et qui vient rire et qui vient regarder les autres morts, soit d'autres personnages encore.
Alors vous l'avez dit, c'est vraiment, ça, on pourrait penser que c'est morbide, ça l'est absolument pas, c'est très drôle. Et j'ai trouvé, puisque cette table ronde, vous avez eu la bonne idée de l'émailler, alors il y avait plusieurs intervenants, mais vous avez émaillé de lecture. Oui. Et j'ai trouvé que c'était, d'abord c'était très bien lu, très bien choisi, très bien lu, et puis ça faisait résonner le texte d'une manière très moderne.
Oui, mais je crois que c'est un texte qui est assez intemporel, parce que Lucien était un auteur du 2e siècle après Jésus-Christ, mais il reprenait ses modèles dans la langue très pure du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, il est peu ancré dans l'actualité de son temps, contrairement aux successeurs dont ont parlé mes collègues, mais il a une sorte d'éternité qui fait qu'il peut nous parler de nos jours, à mon avis.
Oui, et vous disiez que quelqu'un qui ne connaîtrait pas, alors on a oublié de préciser qu'il est quand même assez à part, puisqu'on l'appelle Lucien, mais c'est Lucien
de Samosate.
Voilà, et ça, ça se trouve où ?
Alors, Samosate se trouve à l'extrême est de la Syrie, et ça se trouvait dans le petit royaume de Commagène qui a été récupéré par les Romains après. Donc, il est dans un milieu qui est très peu romanisé, encore moins hellénisé. Mais c'est l'époque, nous sommes sous les Antonins, et c'est une époque où le grec classique, le grec tel qu'on ne le parle plus vraiment, devient à la mode. Les empereurs, ben pensez aux mémoires d'Adrien, hein, les empereurs sont fanatiques presque du monde grec, et il y a une réussite sociale qu'ont les orateurs à venir faire entendre de grands discours ou de petits dialogues en un très joli grec. Et Lucien, donc, il se peint lui-même avec un certain mépris. Il dit « j'étais un barbare, j'étais vêtu d'une sorte de burnous barbare, et je parlais une langue de barbarie », il emploie trois fois ce mot, « et puis je suis devenu grec ».
Et il on sent la fierté.
Voilà, ouais. Et il est plus grec que les Grecs, à la limite.
Et alors, ce qui m'a frappé, je rebondis là-dessus, c'est que vous disiez que quelqu'un lirait son texte sans savoir à quelle époque il vivait vraiment, aurait pu imaginer que c'était un grec classique du 5e siècle avant Jésus-Christ.
Absolument. Et ce qui est d'ailleurs très frappant, c'est que Lucien lui-même a vécu à Athènes, en vérité.
Il a beaucoup voyagé.
Il a voyagé et il a fait le tour du bassin méditerranéen, plutôt vers le nord. Il était jusqu'en Gaule. Mais quand il parle d'Athènes, il ne parle pas de l'Athènes de son temps, mais il parle vraiment de l'Athènes de l'époque de Socrate, de l'époque de Platon, d'une Athènes qui est quand même quelque peu imaginaire. Et les empereurs ne sont pratiquement pas nommés.
Oui, alors c'est pour ça qu'il est complètement atemporel. Donc à la fois, il est un grec plus classique que les plus classiques des Grecs. Et en même temps, il échappe à son époque. Et il parle de thèmes, même si les personnages sont très connus, datés, on peut les retrouver facilement. Il parle de choses éternelles. Oui. Parce qu'en fait, il se moque de quoi en réalité ?
Mais ce qu'il déteste, c'est la vaine gloire. Alors, une de ses cibles favorites, ce sont les philosophes. Les mauvais philosophes qui font semblant d'être cultivés. Il y en a un texte très drôle qui s'appelle « Contre l'inculte qui achète beaucoup de livres ». Un personnage qui achète des tas de livres, que Lucien, qui est moins riche sans doute, aimerait bien avoir, mais qui ne sait pratiquement pas lire. Donc ça, il le met en scène et c'est très drôle. Beaucoup plus sérieux, il se moque aussi de ceux qui se jouent de la crédulité des hommes, et notamment des faux prophètes ou des faux dévots qui arrivent à extorquer de l'argent aux gens crédules et à se faire admirer. Et ça, il les hait vraiment profondément. Et une des pièces les plus intéressantes, c'est pas du tout un dialogue des morts, c'est un texte sur un certain Alexandre qui avait fondé un oracle.
Oui, parce qu'Alexandre, il en parle beaucoup.
Il s'appelle Alexandre. Mais c'est un personnage donc, qui avait pris ce nom était assez courant, et il avait fondé un oracle sur les bords de la mer Noire, et il y a eu pratiquement une lutte à mort, même physique, entre lui et Lucien. Puisque Lucien prétend que le personnage a voulu le faire noyer, il se vante de, quand l'autre lui avait tendu sa main à baiser, de l'avoir mordu si fort qu'il en a saigné. Donc il a un rapport à la fois très ironique et assez féroce. Là, c'est quelqu'un à qui il ne pardonnera pas.
Mais alors, cette scène dont vous parlez, qui nous la raconte ?
Lui.
Lui, d'accord.
Et donc, on n'est pas obligé de le croire. Les monnaies, d'ailleurs, nous ont montré que cet Alexandre, donc, qui vivait au bord de la mer.
Ce charlatan, en fait.
Voilà, ce charlatan a été cru. Puisqu'on a même changé la ville où il habitait en Ionopolis, la cité de Ion, et on a trouvé des monnaies jusqu'au IIIe siècle qui représentaient ce personnage avec son petit serpent apprivoisé. Donc on n'a pas du tout obligé de croire Lucien, c'était peut-être un vrai prophète, j'en sais rien.
Et alors, donc ça, vous encouragez à le lire, c'est dans quelle œuvre qu'on peut retrouver
ça? Ça s'appelle Alexandre ou le faux prophète.
D'accord. Parce que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que la première chose que vont faire les auditeurs, c'est se précipiter pour lire. Alors évidemment, on n'est pas obligé, loin s'en faut, de lire en grec, il y a de très bonnes traductions, la preuve, mais ça se lit très facilement.
Oui, ça se lit très bien, oui. Mais d'ailleurs, dans ma jeunesse, on étudiait un peu Lucien dans les classes de 4e, 3e, c'est-à-dire pour les textes les plus faciles, on prenait quelques dialogues de Lucien.
Et pourtant, c'est du grec le plus classique.
Oui, il est absolument classique. Ouais. Et en même temps, il écrit des phrases courtes, donc il est moins difficile que certains orateurs, c'est pas Démosthène. Et du coup, c'est un grec très pur. Il n'y a jamais, par exemple, quand on parle de comique, il n'y a jamais de gros mots. Hein, c'est pas Aristophane. Donc, c'est facile à traduire. Les phrases sont courtes, mais sont d'une pureté attique, hein, de la langue de la région d'Athènes. Et donc, je lui conseille, si on a envie de s'entraîner au grec.
Donc on va préconiser en effet de faire à la fois dans la traduction française et de balayer, de faire du petit grec avec le texte grec. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous au départ de traduire cet auteur, de vous y intéresser? Comment ça s'est passé, votre rencontre avec lui?
Mais alors j'ai traduit sur un auteur qui est moins connu qui s'appelle Alcifron, qui n'avait pas été traduit et que mon maître Vidal Naquet m'avait demandé de traduire, et donc il a été publié donc à la Roue à Livres, mais en édition monolingue. Et c'est très proche de Lucien, et du coup je me suis rapprochée de Lucien par là. Et après, j'ai continué.
Et là, vous diriez que vous en avez fini avec lui ou pas encore?
J'ai fait l'intégrale, donc oui. L'édition Minor, j'ai fini avec lui. Et les Belles Lettres ont publié 5 anthologies, c'est-à-dire à peu près, je dirais, plus de la moitié de l'ouvrage, et je ne pense pas qu'ils soient intéressés par le reste.
Et alors, est-ce que vous avez déjà écrit sur lui? Vous l'avez traduit, mais...
J'ai écrit quelques articles, oui, mais des petits articles entre universitaires.
Et vous n'auriez pas envie d'en faire un livre?
J'ai essayé, mais pour le moment, j'ai pas réussi.
pour l'instant, vous n'avez pas réussi. Parce que c'est un personnage fascinant. À part ce qu'il dit de lui, est-ce qu'on sait des choses rapportées par d'autres personnes?
Pas grand-chose, non.
Non.
Mais lui, on peut le croire, on peut ne pas le croire. Par exemple, il dit, quand j'étais très jeune, j'étais chez mon oncle qui m'a fait forcer à faire de la sculpture, j'ai cassé une plaque, j'ai été battue, je suis rentrée en pleurant. Bon, là, c'est très mignon. Et après, il dit, je suis rentrée, puis j'ai rêvé. J'ai vu deux femmes qui arrivaient, l'une qui était la sculpture, l'autre qui était la rhétorique.
Ah, oui.
Et j'ai choisi la rhétorique. Ça ressemble tellement à Xénophon et ça ressemble tellement à Héraclès entre les deux voix, que j'avoue qu'on n'y croit pas tout à fait. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de littérature que de vérité. Hein. On n'a aucune preuve, en fait. On sait qu'il a existé, mais on n'a quand même...
On n'a aucune inscription, non, rien du tout. Et pour ses voyages, alors, qu'est-ce qu'il a fait comme voyage?
Alors, il a des vrais voyages qu'il a fait. Il est allé donc de son pays, donc de la Syrie. Il est allé en Asie mineure, où sans doute il a étudié la rhétorique. Il y a pas mal d'écoles de rhétorique. Il a traversé, il est allé à Athènes.
Parce que là, je vous coupe deux petites secondes pour un aparté plus pragmatique. Ces gens-là voyageaient beaucoup,
oui.
Et pourtant, c'était des distances quand même pour nous, avec les moyens qu'ils avaient assez importantes. Ils n'hésitaient pas à faire ces grands voyages.
Ce n'étaient pas des voyages très dangereux. Hein. C'est l'époque de Pausanias qui a écrit une sorte de géographie pour touristes. Donc, les gens voyagent quand même. Et le bassin méditerranéen, on est sous les Antonins, comme je le disais, est relativement sûr. Il n'est pas allé très très loin, il est allé jusqu'à Rome, on sait qu'il est allé, ce qu'il le raconte.
Alors il voyage par bateau, par char, les moyens habituels.
Comme les gens du coin, oui. Et donc il est allé en Gaule, puisqu'il se vante d'avoir gagné beaucoup d'argent en Gaule, puis il est retourné.
Mais gagné en faisant quoi alors?
Alors il faisait des conférences. Les gens avaient souvent il y avait un public très, très enthousiaste, mais ils avaient des exercices, par exemple. au dernier moment, on disait, vous allez plaider le pour ou le contre de quelque chose. Et puis, il y avait un exercice.
C'était de l'improvisation.
Voilà, de l'improvisation. Écrire en vers ou en prose, écrire un comique ou un tragique. Donc, il y avait un exercice. Il y a beaucoup de... C'est l'époque qu'on appelle l'époque de la seconde sophistique, où les sophistes, c'est, le mot n'est pas du tout péjoratif, se promènent et font des exercices.
Parce que ce mot, c'est Platon qui l'a rendu péjoratif, mais,
voilà,
il
mais la
pas.
Première sophistique, oui, c'est pas du tout péjoratif. Si on lit le livre de Jacqueline de Romilly, c'est des gens passionnants, les sophistes, hein, les vrais sophistes. Mais Platon les a parfois ridiculisés. Mais Lucien, donc, se moque d'autres sophistes, d'ailleurs. Il dit, il y en a qui avaient déjà truqué le tirage au sort du sujet pour avoir déjà leur discours tout prêt. Il y a un discours qui s'appelle « Sur le maître de rhétorique », où le maître de rhétorique est un imposteur, donne des conseils en disant « Voilà comment tu vas te présenter, puis tu prendras une toge un petit peu transparente, comme ça, ça peut exciter les gens. Et puis, tu diras ceci, tu apprendras par cœur quelques mots qui n'existent pas, mais tu les citeras, comme ça, tout le monde sera troublé. » Donc, il s'est beaucoup moqué de ses confrères, les sophistes. Peut-être qu'il en a fait un peu partie, mais il a été très ironique avec eux.
Et ça ressemble, du coup, je reviens au dialogue dont nous avons parlé, le dialogue des morts, ça ressemble à des sketchs, en fait.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, justement, moi, je suis... contre l'idée que c'était joué, on peut maintenant le jouer, tout à fait, c'est pas interdit, mais j'ai l'impression que c'est lui qui disait les différentes voix des personnages, puisque chaque fois qu'on change de personnage qui parle, il dit, eh bien, un tel...
Il précise
chaque fois qui il est, voir à quoi il ressemble, toi avec ta tunique de telle couleur, etc., ce qui montre que c'est pas joué, mais que c'est quelque chose qui est dit, quand même, qui est joué au sens phonétique du terme, mais qui n'est pas joué forcément physiquement. Ce qui n'empêche pas les gens, après, de les avoir joués.
Et alors, est-ce que ces écrits de son temps ont été connus, diffusés? On sait qu'on va en parler après, ils ont eu une postérité, enfin, on s'en est beaucoup inspiré, mais de son temps, on ne sait pas.
On sait qu'il menait une vie riche, donc qu'il n'était pas dans la misère, qu'il a cessé, est-ce qu'il avait été orateur du barreau, mais ça n'a pas dû durer très longtemps, et qu'il a vécu de ça. Maintenant, on n'a pas vraiment...
On n'a pas d'écho de ce que donnait son œuvre. Et donc, il avait comme à côté de s'exercer des sortes de présentations de son talent oratoire, de son talent d'improvisation. Alors, ce qui a été dit aussi dans cette table ronde de vendredi, c'est que ces dialogues des morts ont eu une descendance incroyable.
Alors, ils ont disparu pendant tout un temps et ils arrivent en Occident, c'est-à-dire d'abord à Florence, puis ensuite aux Pays-Bas, à Paris et à Londres. Ils arrivent donc au tout début du 15e siècle, ils arrivent donc de Constantinople notamment, et ça plaît tout de suite, puisque bien avant même, par exemple, un tableau de Botticelli qui s'appelle La Calomnie, c'est... un tout petit opus de Lucien qui s'appelle La Calomnie, le tableau d'appel qui est décrit, il a été perdu depuis longtemps, mais Botticelli l'a peint exactement à partir du texte de Lucien.
Ah, je ne savais pas ça.
Donc ça se passe à Florence en 1490, 92, je n'ai plus la date exacte, mais dans ces eaux-là. Et ensuite, le grand lecteur de Lucien, c'est Erasme. Donc Erasme a commencé Lucien, je disais tout à l'heure, Lucien c'est facile à lire, et Erasme voulait apprendre le grec, il en savait un peu, mais il était très mécontent de l'enseignement qu'il recevait à Paris, et quand il découvre Lucien, il le dit lui-même, j'ai étudié Lucien d'abord pour bien comprendre le grec. Et quand, un peu plus tard, il aura bien connu son Lucien, il va le laisser, parce qu'il va dire, maintenant j'ai le niveau et je peux passer à autre chose. Donc, et Erasme, qui était un grand ami des éditeurs, a fait énormément pour, je crois qu'il y a plus de 40 ouvrages de Lucien qui sont passés par ses mains, qui traduisaient bien sûr en latin.
Et alors donc après Erasme, que deviennent... Alors, vous avez expliqué que ça devient un genre littéraire.
Alors, c'est surtout mes collègues qui sont beaucoup plus compétents que moi sur la littérature. Moi, je connais à peu près jusqu'au XVIe siècle. Je connais bien sûr Fontenelle et tous les Fénelon et tous ceux dont ils ont parlé. Mais petit à petit, ça a un grand, grand succès. Au XVIe siècle, c'est traduit énormément de fois. Pas seulement les dialogues des morts, mais particulièrement les dialogues des morts. Et ensuite... même les protestants vont s'en servir d'un des personnages de Lucien qui s'appelle Ménippe pour créer ce qu'on va appeler à la fin du XVIe siècle la satire ménippée, qui est publiée par les protestants, composée par les protestants sur le modèle du Ménippe de Lucien, en mêlant le comique et le sérieux pour attaquer la Ligue.
Et donc tout ça, ça continuait de décémer des siècles après, au 18e, au 19e. Mais pour en terminer, puisque le temps passe très vite, je voudrais signaler que si mes renseignements sont bons, il y a eu un enregistrement à partir de votre traduction, lu par Denis Podalydès.
Oui, oui. Mais c'était les voyages. C'est un autre texte de Lucien qui est les voyages extraordinaires. Dans mon ouvrage, ça s'appelle Les voyages extraordinaires. C'est une anthologie. Où sont les dialogues des morts? Mais Denis Podalydès a lu Les histoires vraies de Lucien, qui est un texte extraordinaire, où le personnage s'envole jusque sur la lune, où il rencontre un roi sur la lune, il se bat avec les rois du soleil, et là les auteurs comme Swift l'ont beaucoup repris, et donc il a repris ça, et le texte dont je vous parlais tout à l'heure, le maître de rhétorique, il a enregistré ces deux choses, mais c'est pas les dialogues des morts.
Et c'est disponible, ça,
oui,
encore?
Oui, je pense que c'est on le trouve aux belles lettres. Je n'ai pas acheté par ailleurs, mais je crois que c'est disponible parce que ça a 2 ans d'âge.
Bon, je vais m'empresser de l'acquérir. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie.
Merci
et vraiment, vous m'avez donné un grand plaisir. Et je vais relire avidement ces beaux textes. Au revoir.
Au revoir.
Celui qui leur enseigna des fariboles de ce genre fut l'Ulysse d'Homère, qui parla à la cour d'Alcinoos, devant réduits en esclavage, d'hommes dotés d'un œil unique, mangeurs de chair crue et sauvage, et aussi d'animaux à plusieurs têtes, et des métamorphoses de ses compagnons sous l'effet de filtre. Telles furent les nombreuses monstruosités qu'il raconta aux Phéaciens, des gens qui n'y connaissaient rien. Quand je lisais tous ces auteurs, je ne leur reprochais guère de mentir, vu que c'était déjà l'habitude même chez ceux qui font profession de philosopher. Mais j'étais étonné qu'ils aient cru qu'on ne s'apercevrait pas que leur récit n'était pas vrai. C'est pourquoi, comme j'éprouvais moi aussi, par vaine gloire, le désir de laisser quelque chose à la postérité, je n'ai pas voulu être le seul privé de la liberté d'écrire des légendes. Puisque je n'avais rien de vrai à raconter, il ne m'était rien arrivé d'intéressant, je me suis tourné vers le mensonge avec beaucoup plus d'honnêteté que les autres. Car je dirai la vérité au moins sur un point, en disant que je mens. Je crois donc que j'éviterai d'être accusé par les autres, puisque je reconnais moi-même que je ne dis rien de vrai. J'écris sur des choses que je n'ai ni vues, ni vécues, ni apprises d'autrui, et qui, en outre, n'existent absolument pas, et ne peuvent pas du tout exister. Par conséquent, les lecteurs ne doivent en aucune façon ajouter foi à ces récits.
Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai acquis ce livre audio, Lucien de Samosade, Voyage en Terre Imaginaire. Vous pouvez aussi aller sur le site des Belles Lettres pour en écouter un extrait ou commander ce livre audio.